À la veille des vacances scolaires, la vigilance est de mise aux alentours des écoles, collèges et lycées. Policiers et gendarmes étaient mobilisés ce soir à la sortie des classes. Des arrêtés du Haut Commissariat concernant l'alcool sur des communes de la province Nord, des arrêtés à Bélep et sur la zone VKP pour prévenir les risques de violence. Les ennuis s'enchaînent pour Air Calais après l'annulation d'un vol Paris-Bangkok-Nouméa. Ce sont les vols Nouméa-Brisbane et Brisbane-Nouméa d'aujourd'hui qui ont été annulés. Au programme culturel et festif, la fin demain de la 13e édition de la Semaine de l'environnement au Mont d'Or avec un atelier de permaculture au Centre d'éducation à l'environnement de Boulary. Le sport sur le territoire avec du football, du tennis, du motocross, de la natation et bien évidemment du karaté. Les Océanias de la discipline continuent ce soir et demain à Nouméa. Et puis du sport aussi en métropole avec la 26e et dernière journée de Top 14, du rugby bien évidemment. Tous les matchs à suivre en multiplex dimanche matin pour nous. Bonsoir et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Nous sommes à la veille d'un long week-end puisque lundi prochain, le 9 juin, sera le lundi de la Pentecôte. C'est un long week-end donc, mais c'est aussi la fin du premier trimestre de l'année scolaire. Et ce soir, les élèves entament une période de 15 jours de vacances. À la veille de ces vacances, les forces de sécurité sont attentives aux débordements aux alentours des établissements scolaires. Des effectifs sont déployés partout sur le territoire, Charlotte Coulson.
Le trafic routier augmente, les risques d'alcoolisation aussi. La vigilance est de mise pour les forces de l'ordre, particulièrement à Nouméa. La directrice du cabinet du haut-commissaire, Anaïs Haït Mansour, s'est rendue devant le lycée Jules Garnier cet après-midi pour y rencontrer le personnel de l'établissement ainsi que les policiers déployés. Ils sont une dizaine autour du site. Leur mobilisation est nécessaire, même si la situation n'est pas alarmante, selon Anaïs Haït Mansour.
Alors le lycée Jules Garnier, c'est un des établissements importants de la ville de Nouméa, donc c'est pour ça qu'on a voulu être là aussi aujourd'hui. C'est aussi un établissement d'où viennent des élèves d'assez loin, donc c'est le moment où il va y avoir pas mal de flux pour qu'ils rentrent chez eux pour les vacances. C'est pour ça qu'on a choisi cet établissement. Pour autant, c'est pas un établissement où il y a une part significative de faits de la délinquance. De façon générale, à Nouméa, les faits de délinquance autour des établissements ont un peu augmenté par rapport à l'année dernière. Ils ont augmenté à peu près de 20%. Et en fait, ce sont essentiellement des vols, des petits vols à l'arraché et quelques faits de violence. Mais on n'a pas de rixes importantes entre élèves. Et par exemple, sur le port d'armes au sein des sacs, etc., c'est complètement marginal. On n'en a pas du tout. Néanmoins, à la demande du ministre de l'Intérieur, on sécurise les établissements scolaires, notamment aujourd'hui parce que c'est le départ en vacances. Donc les gendarmes et les policiers sont mobilisés aux abords de tous les établissements en Nouvelle-Calédonie pour cette journée.
Et en dehors de Nouméa, la délinquance autour des établissements et entre élèves a tendance à baisser depuis l'année dernière. Preuve que le dispositif fonctionne selon la directrice de cabinet du haut-commissaire. C'est un travail partenarial avec les forces de sécurité, bien sûr, police comme gendarmerie, les provinces et puis le vice-rectorat et les chefs d'établissement qui restent vigilants. À Jules Garnier, le directeur du lycée, Michel Houillet, est plutôt rassuré de cette mobilisation.
C'est toujours rassurant pour l'établissement, mais aussi pour les familles et les élèves, hein, d'avoir une présence policière aux sorties. Ce n'est pas qu'on soit inquiet par rapport à l'attitude de nos élèves, mais généralement, quand il y a des conflits entre jeunes, il peut y avoir aussi des groupes de jeunes qui vont d'un établissement à l'autre pour essayer de semer la zizanie. Voilà, donc c'est plus moi à ce niveau-là que j'aime bien avoir une présence policière aux abords, parce que du côté du lycée, on a des adjoints d'éducation qui sont présents, la direction qui est présente à chaque sortie, donc on gère nos propres élèves.
Et puis les élèves aussi remarquent cette présence accrue des forces de l'ordre autour de leur établissement scolaire. Une présence nécessaire selon ces deux élèves de terminale.
Pour nous, c'est une habitude parce que ben, tous les jours, il y a les forces de l'ordre ici. C'est toujours comme ça. Surtout la veille des vacances, c'est toujours comme ça. Ils vont réclamer plus quand c'est la fin des vacances.
Ils sont toujours là, c'est à cause des bagarres. Quand il y a des bagarres, ben, le proviseur il va appeler les forces de l'ordre pour venir ici pour surveiller un peu. C'est pour ça que c'est calme. Mais ça n'est pas eux, je pense que depuis tout à l'heure, il y aurait des bagarres. Ça nous protège et tout. Surtout que ça fait peur un peu quand il y a des bagarres, il y a des bouteilles qui volent et tout.
Ben, qu'ils continuent à faire leur travail, ça nous aide bien, quoi.
Et la mobilisation continue dans le Grand Nouméa et surtout le territoire. Les forces de l'ordre contrôlent surtout les flux routiers et assurent une présence autour des établissements scolaires.
Un accord est encore possible, c'est ce qu'affirme Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province Sud et membre de la délégation loyaliste pour les discussions sur l'avenir institutionnel. Il était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence pour revenir sur l'actualité politique. Jean-François Baudin.
Gilles Brial a été interrogé sur le conclave de Deva, sur le projet de Manuel Valls et sur les nombreuses déclarations des derniers jours. Mais d'abord sur l'initiative d'Emmanuel Macron qui a invité à Paris les parties prenantes du dossier calédonien. Quand on lui demande si c'est un désaveu pour le ministre de l'Outre-mer. Gilles Brial fait part de son interprétation personnelle.
Moi, ce que je sais, c'est que quand il y a la signature des accords de Matignon-Oudinot, c'est Michel Rocard qui est en avant. Quand il y a la signature de l'accord de Nouméa, c'est Lionel Jospin. Là, on voit que le dossier monte d'un cran au niveau de l'Élysée et que c'est le président qui nous invite avec son gouvernement, dont Manuel Valls, mais pas que, il ne constitue pas seul le gouvernement, à travailler sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a forcément une reprise en main et c'est, à mon sens, une forme de désaveu, pas forcément peut-être de la méthode de Manuel Valls, mais en tout cas de son projet qu'il a présenté pour la Nouvelle-Calédonie.
Le deuxième vice-président de la province sud a par ailleurs été amené à commenter les dernières déclarations de Manuel Valls. Dans une interview sur BFM TV, le ministre des Outre-mer a dénoncé des décisions prises par la province sud qui ont aggravé la situation des Kanaks notamment. La réaction de Gilles Brial après cette attaque.
Ça ne m'étonne pas parce que ce n'est pas la collectivité qui l'attaque, c'est ceux qui la gèrent. Ils utilisent la collectivité comme alibi. En fait, on a un problème pour Manuel Valls parce que ceux qui gèrent la province sud aujourd'hui sont ceux qui se battent contre son projet. On est les derniers remparts finalement contre l'indépendance. Parce que c'est bien ça, son projet. Donc je ne suis pas étonné. Je trouve quand même assez bizarre qu'un ministre de l'Outre-mer soit aussi présent sur les médias nationaux. En fait, il se prépare pour 2027. Il est vraiment dans une logique de préparation au présidentiel, alors soit pour être candidat, soit pour exister dans le gouvernement d'après 2027. Mais moi, je souhaiterais que la Nouvelle-Calédonie ne soit pas utilisée comme marchepied à l'élection présidentielle, parce que là, c'est nous, les non-indépendantistes, c'est sur nous qui marchent pour avancer, et ça, évidemment, on ne se laissera pas faire. Il le sait, donc il nous attaque de Paris, c'est beaucoup plus facile. Mais je suis surtout découragé de voir un ministre d'État, parce qu'il est ministre d'État, parler comme ça d'une collectivité dont il ne connaît rien. Moi, je n'ai jamais vu Manuel Valls aller visiter un internat de la réussite, aller voir nos dispositifs d'insertion, qu'ils soient dans le Grand Nouméa ou dans les tribus, nos dispositifs d'accompagnement des médecins, nos dispositifs sociaux qui sont mis en place en province sud. Il ne connaît rien de tout ça, donc il juge de loin sans connaître, c'est dommage.
Concernant les discussions sur l'avenir institutionnel, Gilles Brial a été interrogé sur le projet proposé par Manuel Valls lors du conclave de Deva.
Ce projet, c'est l'État associé. C'est rien d'autre. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner tous les noms que vous voulez, c'est l'État associé. Et l'État associé, c'est quoi ? C'est, on est d'abord indépendant, on est pleinement souverain, donc l'indépendance pure de la Nouvelle-Calédonie. Et parce qu'on ne sait pas gérer un certain nombre de compétences, on demande à la France, en l'occurrence, de les exercer pour nous. Donc on va déléguer une partie de nos compétences. Mais on ne délègue que ce qu'on possède, c'est-à-dire qu'on a bien transféré toutes les compétences et on est bien devenu un pays indépendant. Il crée une double nationalité. Donc c'est le deuxième point qui caractérise un État associé. Et le troisième, c'est l'ensemble des attributs de la souveraineté, le siège à l'ONU, la participation à toutes les instances de pays complètement autonomes. Je regrette qu'il ne l'assume pas, c'est-à-dire qu'il nous le présente, mais qu'il ne soit pas capable d'assumer ça auprès des Calédoniens et qu'il leur dise « je vous présente l'État associé comme solution ». Je lui ai dit, moi, pendant le conclave, que les Calédoniens méritent que leur bourreau leur regarde dans les yeux. Il l'a très mal pris, mais c'est ça la réalité. Je veux dire, quand on propose un État associé, on l'assume. Donc, c'est pour ça qu'on lui a dit qu'il est revenu 40 ans en arrière sur le projet d'Edgar Pisani. C'est lui qui est resté, finalement, sur un logiciel qui a plus de 40 ans.
Et Gilles Brial relève que, curieusement, Manuel Valls veut mettre en œuvre les conséquences du oui, alors que les Calédoniens ont dit non. Il a aussi été interrogé sur le projet porté par des partisans de la France, un projet qualifié de partition. Ce n'est pas le cas, affirme le membre de la délégation loyaliste.
Le fédéralisme, pour nous, c'est clair, hein, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire fédéré de la République française. Elle est inscrite donc définitivement dans la Constitution française. Aujourd'hui, on est dans les dispositions transitoires. On conserve notre unité territoriale. L'État conserve aujourd'hui l'ensemble des compétences qu'il exerce en Nouvelle-Calédonie et nous on souhaite qu'on lui en délègue un certain nombre parce qu'on a transféré des compétences à la Nouvelle-Calédonie qu'on n'arrive pas à gérer. Donc on dit juste qu'il faut revoir les compétences entre les institutions calédoniennes, entre le gouvernement et les provinces qui finalement la Nouvelle-Calédonie est une sorte de territoire fédéral composé de 3 provinces et on renforce les compétences des provinces. On donne la fiscalité aux provinces et les provinces viennent encore plus les outils de développement. Et ça c'est pas la partition.
Gilles Brial estime que le projet de Manuel Valls est enterré, mais que le ministre des Outre-mer a tué la perspective d'un accord sur une solution définitive. Il est toutefois convaincu qu'un accord est encore possible.
Moi, je crois qu'on peut trouver un accord. On peut trouver un accord dans les semaines qui viennent, si Manuel Valls ne pose pas un truc sur la table qui soit un repoussoir, et si on cherche plus nos convergences, et il y en a, heureusement qu'il y en a entre loyalistes et indépendantistes. Mais l'objectif, c'est de ne pas tomber dans une trajectoire qui soit l'indépendance au bout. Mais c'est que les Calédoniens, donc les générations futures, puissent choisir leur projet, mais de manière commune, pas une partie de la population contre l'autre.
L'État doit dire clairement ce qu'il veut, ajoute le deuxième vice-président de la province sud, qui explique que s'il y a un accord à la mi-juillet, il faudra aussi se mettre d'accord sur la façon dont on organise les élections provinciales, selon quel corps électoral et avec quelles modalités pour garantir la sécurisation du scrutin. Et alors qu'il s'apprête à partir pour Paris, quand la date du rendez-vous avec le président de la République sera connue, Gilles Brial tient à assurer que ces discussions ne sont pas une partie de plaisir.
Et je veux dire aux Calédoniens, parce que souvent ils critiquent ça, ils disent « ouais, vous allez vous promener », je vous promets que c'est pas une longue promenade. Vous passez des heures enfermées avec des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être avec vous et avec qui vous n'avez pas forcément envie d'être, et vous êtes omnibulé par une chose, trouver une solution qui soit viable pour la Nouvelle-Calédonie et pour ceux qui y vivent, pour tous ceux qui y vivent. Donc vous n'avez pas beaucoup de moments de plaisir, vous avez des moments de prise de tête qui sont parfois violents, et c'est ce qui s'est passé à Deva, où pendant 3 jours, on s'est battu contre Manuel Valls, contre son projet, et je peux vous dire que c'est tendu, c'est épuisant, il y a pas beaucoup de moments de bonheur à ce moment-là. On a gagné une bataille. C'est pas la guerre. La guerre, elle se jouera début juillet à Paris. C'est celle-là qu'il faut réussir à gagner pour l'ensemble des Calédoniens.
On ne sait pas encore la date précise de ce rendez-vous avec le président de la République, mais ce sera début juillet. Il y aura une séquence politique avec l'objectif de trouver un accord et une séquence consacrée à la relance économique avec la participation de la société civile, précise encore Gilles Brial.
Une interview de Gilles Brial à retrouver en audio et en vidéo sur notre site internet. Elle sera également rediffusée un dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Un rendez-vous politique ce week-end, ce sera dimanche. Le FLNKS réunit une convention à la maison commune du GDPL Waka à Dumbéa. Il s'agit de faire le point sur les derniers développements politiques et notamment l'initiative du président de la République qui souhaite réunir les parties prenantes du dossier calédonien à Paris. À 17h passé de 58 minutes, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité locale et régionale.
Du mardi au vendredi à 6h20 et 11h15 et le samedi à 8h, écoutez l'édito d'Europe 1 avec le village automobile PK4 à Nouméa. Le village automobile, c'est un lieu unique qui regroupe un parking d'occasion, un magasin de pièces de rechange d'origine, un atelier de réparation normes constructeurs et aussi 11 grandes marques de véhicules neufs avec des offres exceptionnelles.
Du 26 mai au 19 juin, faites pousser vos envies. La jardinière sur pied Venezia est à 2990 francs seulement. Alors profitez-en, cultivez vos aromates et légumes. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici. Jardiland. Cultivez votre bien-être.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Cinef au soir, Léo Fichou.
Une séance publique chargée pour le gouvernement hier. Il était exceptionnellement réuni ce jeudi. Et au programme, 2 avant-projets de loi du pays, 5 projets de délibération du Congrès, 1 projet de délibération du gouvernement et enfin l'adoption de 17 arrêtés. Charlotte Coulson.
Le premier avant-projet de loi du pays concerne le renforcement de la transparence fiscale et la modernisation du contrôle de l'impôt. Il s'agit ici de se conformer aux exigences internationales, notamment de l'OCDE, et de préserver l'attractivité économique du territoire. Cette lutte contre les fraudes permettrait à la Nouvelle-Calédonie de ne pas se retrouver sur la liste noire des pays non coopératifs à des fins fiscales, ce qui restreindrait l'usage de fonds européens. L'avant-projet de loi du pays propose une série de mesures destinées à pallier les carences identifiées. Le texte entend, à travers une série de mesures, améliorer l'automaticité et la transparence des échanges d'informations avec les services fiscaux. Les explications du membre du gouvernement en charge de l'économie, Christopher Gigès.
Déjà, on a une politique économique qui marche sur deux jambes. On veut aider vraiment les entreprises calédoniennes en leur simplifiant la vie, celles qui jouent le jeu, en mettant du droit à l'erreur, en les accompagnant sur tout ça. Par contre, il y en a qui fraudent et donc on souhaite améliorer nos dispositifs, à la fois sur la transparence fiscale, sur une obligation de déclaration de comptes qui sont à l'étranger ou de comptes en Nouvelle-Calédonie qui n'ont pas de référence fiscale réelle, d'avoir une communication qui est beaucoup plus forte avec les instances comme l'autorité des marchés financiers. Donc vraiment une politique économique qui favorise ceux qui jouent le jeu et qui renforce notre politique pour ceux qui ne jouent pas le jeu.
Cet avant-projet de loi du pays prévoit la mise en place de certaines dispositions visant à définir clairement les conditions d'examen des comptes financiers et notamment des comptes bancaires retraçant à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles. Si ces mesures sont votées par le Congrès, elles rentreront en vigueur au 1er janvier 2026. Le deuxième avant-projet de loi du pays a pour objectif une simplification et une meilleure prise en charge du handicap et de la perte d'autonomie en proposant une sorte de guichet unique pour ce secteur via la Maison calédonienne de l'autonomie, anciennement GIP Handicap, Dépendance et Bienveillir.
On veut simplifier les démarches pour les personnes qui sont déjà dans une situation fragile. Avant, il y avait le CRHD, le CSJH, le CHD, le GIP, HDBV. Je crois qu'il faut simplifier tout ça. C'est la volonté du membre du gouvernement Thierry Santa avec la Maison calédonienne de l'autonomie où on fera à la fois la reconnaissance et le versement des aides. Au moins, ça simplifiera pour tout le monde et en plus, ça nous fera faire des économies. Par an, sur le régime handicap et dépendance, on a un secteur qui augmente de 1 milliard par an. Donc là, on est à 8 ou 9 milliards sur ce secteur qui est très important. Donc autant on souhaite simplifier pour les personnes qui sont dans une fragilité qui est grande. Par contre, là aussi, on va avoir un renforcement des contrôles pour éviter qu'il y ait des abus. Je sais que c'est compliqué d'entendre abus dans ce secteur, mais il y en a.
Et le gouvernement a également pris des arrêtés d'ordre budgétaire dans un contexte de forte dégradation des ressources fiscales. La Nouvelle-Calédonie a voté un budget primitif 2025 extrêmement contraint, ne lui permettant pas d'assurer le financement des dépenses essentielles de ses services et des régimes sociaux. Des réaffectations de budget ont donc eu lieu. 350 millions de francs ont été prélevés sur les dotations TGC et réaffectés à l'Agence sanitaire et sociale. 120 millions de francs ont également été versés à la formation professionnelle.
Le Haut-Commissariat a pris plusieurs arrêtés sur des communes de la province Nord pour prévenir les risques de violence à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 juillet. En raison des tensions qui persistent à Bélep, l'introduction, la vente et le transport d'alcool ainsi que le port et le transport d'armes et de munitions sont interdits sur la commune. Bélep connaît des poussées de violence récurrentes depuis 2020. Depuis cette date, des arrêtés de vente d'alcool étaient régulièrement pris. Ce nouvel arrêté s'inscrit dans cette continuité, nous a expliqué Gérard Péot, le commissaire délégué en province Nord.
À l'issue d'une réunion entre la collectivité, les coutumiers, la gendarmerie, etc., a été évoquée la crainte de beaucoup des habitants de Bélep de voir que ces contrôles n'étaient plus effectués sur l'île, surtout avec, si je puis dire, la perspective des congés scolaires, le retour des élèves sur l'île, concomitamment à la levée d'un deuil, le deuil du grand chef décédé en juillet 2024, qui va lui-même sans doute générer pas mal de retours sur l'île. Et donc, pour toutes ces raisons, j'ai considéré important de prendre cet arrêté, y compris dans la perspective de la rencontre que je dois avoir à la fin du mois avec le maire de Bélep, pour évoquer avec lui, ses adjoints et la gendarmerie, les questions de consommation d'alcool et de conduite addictive, et voir quelles sont les meilleures dispositions qu'on peut prendre pour faire que sur cette île, tout se passe pour le mieux.
Et l'arrêté d'interdiction de vente et de transport d'alcool ou d'armes à Bélep restera en vigueur jusqu'au 6 juillet. Notre arrêté concerne la zone VKP en raison d'un événement musical et religieux au centre culturel Pomémy dimanche. La vente de boissons, vins, bières et alcool fort sera interdit à partir de samedi 20h jusqu'à lundi 6h. Le port et le transport d'armes sont également interdits sur les lieux publics. Le magistrat de la cour d'appel laisse Christian Théin derrière les barreaux. Il a en effet décidé de suspendre l'ordonnance de remise en liberté du leader de la CCAT. Il disposait de 48 heures pour se prononcer en urgence sur ce référé détention pour savoir si d'ici l'audience au fond prévue le 12 juin, Christian Théin et trois autres militants de la CCAT devaient rester en détention ou être libérés. La décision définitive sera donc prise le 12 juin lors de cette audience au fond à la cour d'appel.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier. D'abord, 94% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que le parquet a eu raison de s'opposer à la remise en liberté de Christian Théin. Ils sont seulement 6% à ne pas être de cet avis. Notre question du jour maintenant, le déploiement des forces de l'ordre dans le Grand Nouméa est-il selon vous adapté à la recrudescence constatée de la délinquance? Si vous pensez qu'il est adapté, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. L'actualité aérienne. À présent, les passagers de l'avion A330neo d'Air Calin sont toujours bloqués à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. L'appareil devait décoller hier à 7h du matin pour nous de Paris pour rejoindre Bangkok puis Nouméa. Mais en raison d'une panne technique, il est resté cloué au sol. Des travaux de réparation ont débuté hier après-midi déjà, mais sont pour l'instant infructueux, indique la compagnie aérienne. Leurs équipes restent mobilisées et en attendant la réparation de l'avion et la reprogrammation du vol, les passagers sont hébergés à l'hôtel aux frais de la compagnie. On notera également que, conséquence de cette panne, les vols Nouméa-Brisbane et Brisbane-Nouméa de ce vendredi ont été annulés. L'actualité dans la région, la Papouasie-Nouvelle-Guinée confirme que l'Australie demeure son partenaire de choix sur les questions de sécurité. Les deux pays sont même en train de négocier un traité de défense. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
S'exprimant à Canberra dans le cadre de la conférence de l'Institut australien de politique stratégique, le ministre papou de la Défense, Billy Joseph, a tenu un propos sans embâge lorsqu'il a déclaré que, je le cite, « comme tout le monde, nous entretenons un partenariat économique avec la Chine. Mais en matière de sécurité, a-t-il poursuivi, nous choisissons nos partenaires traditionnels tels que l'Australie, les États-Unis et tous les pays qui partagent les mêmes valeurs, qui adhèrent à un ordre international fondé sur des règles et qui adhèrent surtout à un Indo-Pacifique libre et ouvert. » Dans la foulée, Billy Joseph a annoncé que les responsables de la défense de l'Australie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée se réuniront la semaine prochaine à Brisbane pour y poursuivre leurs négociations, lesquelles pourraient déboucher sur la signature d'un traité de défense. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
On est de retour sur le territoire avec le programme culturel et festif de ce week-end, la 13e édition de la Semaine de l'environnement au Mont d'Or qui touchera à sa fin demain. Depuis lundi, la ville a mobilisé petits et grands autour de la nature avec des ateliers jardinage, du tri des déchets, des plantations pour les scolaires, mais aussi des actions de sensibilisation à l'énergie pour les agents municipaux. Et pour clôturer cette semaine, donc, un atelier permaculture se déroulera demain de 8h à midi. Un choix bien réfléchi, explique Olivier Berthelot, adjoint au maire en charge de l'environnement.
La ville, depuis plus de 2 ans et demi, maintenant 3 ans d'ailleurs, a mis en place un service de broyage des végétaux à domicile en porte-à-porte. Donc maintenant, en fait, les administrés, quand ils sortent leurs végétaux, on les broie. Et puis après, au travers du macaron, ils nous disent s'ils veulent les récupérer ou pas. Et en fait, au travers de ces ateliers, on leur montre que faire de son broyat. Et les ateliers de permaculture, ben, on est vraiment dans le concret. C'est-à-dire qu'avec notre éco-jardinier, on va créer une butte de permaculture. Là, en l'occurrence, l'atelier traite de tout ce qui est les légumes feuilles et les concombres. Donc voilà, ils vont planter des semis de ces légumes. Et puis après, s'ils font ça chez eux, au bout de quelques temps, ils vont pouvoir récolter des fruits. Donc voilà. Ce broyat, on arrive ensuite à faire des choses pour son petit jardin.
Et l'événement aura lieu au Centre d'éducation à l'environnement de Boulary. De son côté, la ville de Dumbéa propose demain une journée festive autour de la pétanque. C'est un tournoi convivial et festif organisé par l'association Dumbéa Pétanque en partenariat avec la ville. Il aura lieu donc demain de 8h à midi au nouveau boulodrome de Dumbéa, à côté de la halle Michel Castex. Journée de convivialité et d'information santé organisée demain à Bouloupari. L'objectif est d'encourager les femmes au dépistage du cancer du sein. Ça se passera au Wharf de Bouloupari avec un événement VAA et santé au féminin. Et puis à Farino, le marché de Mamie sera ce dimanche 8 juin sur le thème de la fête des pères. Un rendez-vous de 8h à midi donc à Farino. C'est l'heure de la seconde pub dans ce journal. On se retrouve juste après pour parler sport.
Chers amis golfeurs, The Amateur Golf World Cup est de retour et s'appelle désormais la Summer Bay World Cup. Vous aussi, tentez votre chance pour représenter la Nouvelle-Calédonie en Égypte. Prochaine qualification de la Summer Bay World Cup, le samedi 7 juin, en formule Stableford au golfe de Dumbéa. Inscription par mail sur agcdumbéa@gmail.com.
Dimanche 15 juin, c'est la fête des pères. Pensez à réserver votre table dans le restaurant Le Bilboquet Plage au 26 46 60. Retrouvez la mini-carte spéciale fête des pères sur la page Facebook Le Bilboquet Plage.
Chicken wing, chicken wing,
chicken wing, chicken wing,
chicken wing, chicken wing.
C'est gel, envie d'un repas rapide ou d'un plat qui déchire, essayez nos chicken wings en version Tex-Mex bien relevé ou barbecue tout en douceur, prêt en quelques minutes et pleine de saveurs.
C'est gel tous les jours et les grands jours. Rendez-vous au 4 186 rue Jacques Yekawe, 4e kilomètre. Le 4, faites vos courses autrement. Retrouve toutes nos informations sur la page Facebook Le 4.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, c'est du sport, Léo Fichou.
La première journée des Océania de karaté a démarré fort à la salle Omnisport de Lanzvata. Les épreuves de combat et de kata des catégories cadets, juniors et moins de 21 ans se sont enchaînées toute la matinée. Un rendez-vous important pour les jeunes espoirs calédoniens confrontés à leurs voisins australiens, néo-zélandais ou encore tahitiens. En début d'après-midi, place au podium. Chez les moins de 21 ans calédoniens, Kurt Evlakov et Kenza Amatsokerni ont brillé. Deux combats, deux victoires face aux Australiens. Ils repartent avec la première place et de bonnes sensations avant les prochaines échéances.
Il y avait eu un peu de retard, j'ai fait un peu de chauffe. Après, je me suis refroidi un petit peu, je me suis réchauffé. Je suis remonté sur tatami, ça va, j'étais bien. Bah, sur le début, voilà, je me fais surprendre, donc un peu erreur bête. Mais je réussis à rattraper voilà, en envoyant un mawashigiri, c'est une coup de technique de pied à la tête. Et après, je remonte et j'arrive à gérer. Et les deux combats, ils étaient similaires en fait, ça s'est passé un peu comme ça.
Mes deux combats se sont bien passés, j'étais dedans. Comme je sais que c'est à la maison, du coup, bah, ça m'a donné un peu la niaque, cette rage-là. J'étais motivée, je me suis mis dans ma bulle, je me suis pas posé de questions et je me suis fait plaisir. Et là, mon prochain objectif, c'est les seniors cet après-midi. Et pareil, même motivation et avoir la rage comme tout à l'heure.
Après les podiums, la cérémonie d'ouverture à 16h, Clément Leroux, président du comité régional de karaté de Nouvelle-Calédonie, revient sur ce déroulement de la cérémonie et salue la bonne organisation de l'événement.
On l'a fait un peu plus tard parce qu'on espérait avoir du monde. On s'était dit à 9h on n'aurait personne, mais en fait à 9h déjà les gradins étaient assez remplis, donc on aurait tout à fait pu la faire à ce moment-là. C'était plutôt quelques discours. Ça me paraît logique de remercier les partenaires, qu'ils soient privés ou institutionnels, parce qu'en fait ce qu'on est capable de faire, on le fait tous ensemble. Et s'il manque un seul partenaire, ça fonctionne pas. On a une équipe de bénévoles absolument extraordinaire et on a des athlètes qui savent se remotiver, qui savent se serrer les coudes. Et on a beau être un petit territoire, une petite équipe, on va chatouiller les grands.
La compétition continue ce soir jusqu'à 19h et reprendra demain de 9h à 19h, toujours à la salle Omnisport de Lanzvata. L'entrée est gratuite.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Allez, passons à l'agenda du week-end et on démarre avec quelques rendez-vous sur le territoire. À Nouméa, Païta et la Foix, Jean-François.
Alors à Nouméa, d'abord du football. Demain, avec un match de gala entre les sélections de Nouvelle-Calédonie, les U20 défient la sélection A, composée d'une dizaine de joueurs expatriés. La rencontre est prévue à 17h à Numadélé et sera à suivre en direct sur la web TV de la Fédération Calédonienne de Football. L'entrée est dans le stade est à 300 francs. À Nouméa, toujours du tennis sur les terrains du Wentoro avec le tournoi international junior. Garçons et filles de 13 à 18 ans. Les meilleurs espoirs du Pacifique seront réunis dès demain et jusqu'au 21 juin pour deux tournois. Demain, c'est le début des qualifs. À la fois de la natation avec la deuxième étape du circuit en bassin de 25 mètres, 4 nages au programme dès 9h15 demain à la piscine de la Foix, 200 mètres nage libre, 100 mètres papillon, 200 mètres 4 nages et 50 mètres d'eau. Une compétition de préparation pour les mini-jeux du Pacifique à Palau à la fin du mois. Et puis dimanche, du motocross avec le trophée de Païta, premier rendez-vous de l'année sur le territoire. À partir de 9h30, pilote seront présents, une dizaine de jeunes en 50, 65 et 85 cm cubes, mais aussi 15 pilotes loisirs, vétérans et élites en 125 cm cubes, et enfin une course quad avec 5 pilotes engagés.
Allez, on passe à l'agenda du week-end dans le monde entier, en métropole aussi. On parle d'abord de tennis, la suite et surtout la fin de Roland-Garros.
Oui, alors d'abord la suite du tournoi messieurs, puisqu'on en est aux demi-finales, chez les hommes ce soir à 23h30, le tenant du titre Carlos Alcaraz affrontera Lorenzo Musetti pour une place en finale. Dans l'autre demi-finale, Novak Djokovic défiera le numéro 1 mondial Yannick Sinner. Côté féminin, on connaît la finale qui aura lieu samedi pour nous, dans la nuit de samedi à dimanche. Finale exceptionnelle entre la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka, tombeuse de la triple tenante du titre Iga Swiatek. Elle sera opposée à la numéro 2 mondiale Coco Gauff, l'américaine qui s'est imposée sur la surprise française de ce tournoi, Loïs Boisson, en demi-finale.
En football, on suivra la finale et la petite finale de la Ligue des Nations dans la nuit de dimanche à lundi. Petite finale qui opposera la France à l'Allemagne. Et finale. finale qui verra le Portugal vainqueur en 2019 défier l'Espagne tenante du titre. On passe au rugby avec la dernière journée de Top 14.
Oui, tous les matchs auront lieu dimanche matin à 6h05, heure de Nouméa, puisque c'est à l'issue de cette journée que l'on connaîtra les 6 qui sont qualifiés pour les phases finales. Le club qui sera relégué en Top 14 est celui qui jouera les barrages contre le deuxième de la Pro D2. Alors à suivre sur ces matchs, Aviron, Bayonne et Toulon, Union Bordeaux-Bègles, Vannes, le Loup affrontera le Racing 92, Montpellier reçoit Clermont, la section paloise reçoit le Stade Rochelet, le Stade français accueille Castres Olympique et enfin dernier match, l'USAP Perpignan face au Stade Toulousain.
Les sports mécaniques avec d'abord le Grand Prix Moto d'Aragon en Espagne.
Les essais libres ont lieu ce soir, cette nuit et demain soir avant les qualifs. La Sprint Race aura lieu à minuit dans la nuit de samedi à dimanche et le départ de la course principale sera donné lui dimanche à 23h. Et puis du rallye WRC en Italie, en Sardaigne, à suivre ce week-end. Les premières des 16 spéciales viennent de démarrer. Les spéciales 2 et 3 suivront dans la soirée.
Et enfin, on terminera le week-end avec du cyclisme en métropole, la première étape du Critérium du Dauphiné, 195 km accidentés avec 7 cols de 4e catégorie au programme. 18h16, avant de parler météo, un mot de notre jeu Groupama Race. Félicitations à Sonia de Koumac qui a remporté une expérience exceptionnelle, une sortie en mer pour deux personnes lors d'une régate du mercredi avec l'équipe de la team Groupama. Ce sera bien évidemment durant la New Caledonia Groupama Race, une course qui s'élancera de Nouméa le 15 juin prochain. Encore bravo à elle. Tout de suite, place donc à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, alors, cette nuit, sur la façade est, le ciel sera clair à peu nuageux. Ailleurs, des bords de nuages circuleront et quelques gouttes seront possibles sur l'extrême sud. Sur le nord et Ouvéa, le vent reviendra au secteur sud-est. Ailleurs, il restera établi au secteur sud de 15 à 20 nœuds, puis mollira à la fin entre 10 et 15 nœuds. Les températures minimales seront comprises entre 16 et 20 degrés, localement 14 à 15 degrés, dans l'intérieur et aux îles. Demain matin, sur la côte est et le nord-ouest, le temps sera bien dégagé. Sur le reste du territoire, des plaques de nuages inoffensives donneront un ciel passagèrement nuageux. Le vent, généralement de secteur sud-est, mollira autour de 10 nœuds, voire proche de 5 nœuds sur la façade est, Léo.
Merci beaucoup, Nicolas. C'est la fin de ce journal.